conférence La théologie sur l'Église à la lumière de l'Apocalypse par le Père Marie-Dominique Philippe à Raymond le 21 août 1995, troisième conférence.
Pour vous permettre de bien dormir, nous allons entrer dans l'Apocalypse. Parce que ça nous parle du ciel, donc ça nous donne de bonnes idées pour dormir. Il n'y a rien de tel. Et puis ça nous rend heureux. Je vous lis le début. Nous l'avons vu tout à l'heure, ce point de départ. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, à vous, grâce et paix de la part de celui qui est et de celui qui était et de celui qui vient. Alors voyez, comme c'est intéressant, simplement ça. Ça indique, dans les psaumes, on dit Dieu l'Éternel. Ici, on est dans une vision d'économie divine. Et donc, on regarde Dieu comme assumant le temps, le passé, le présent et le futur. C'est très significatif, ça. Alors, ça nous fait tout de suite comprendre la perspective de cette vision d'Apocalypse. C'est une coupe très spéciale sur la réalité. C'est une vision d'éternité à travers le temps. Ce n'est pas uniquement l'éternité. C'est l'éternité qui assume le temps. Et ça, vous allez voir, une fois qu'on a compris ça, on peut lire l'Apocalypse. Et on voit bien ce que doit être une théologie. La théologie ne part pas d'en bas, elle part d'en haut. Il y a diverses manières de comprendre le devenir, le mouvement, l'histoire. Comment se fait l'histoire ? Elle part du temps, des documents du temps. Et on est emprisonné par le temps. Un bon historien sait très bien ce que c'est. Il est conditionné par les documents. Et quand il n'y a plus rien, il ne peut pas inventer, il ne dit plus rien. Je pense toujours à ça, moi, je pensais ça au seul choir. Chez les Dominicains, on avait construit le couvent sur presque le sable de la Seine. Alors je m'étais dit, si tout d'un coup ça s'effondre, ou si les eaux de la Seine montent, ce qui est possible, puisque la terre s'échauffe, c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus chaude. Et par le fait même, l'équilibre de notre petite terre peut changer. Les icebergs peuvent fondre et la quantité d'eau augmenter. Alors, ça peut s'effondrer. Tout disparaît. On ne découvre qu'une seule cellule, pour des raisons tout à fait particulières, d'un père qui avait une passion, non pas métaphysique, mais biologique, sur la sexualité des araignées. Arrêtez, parce que c'est un animal bien irascible, effrayant, l'araignée. Ça peut passer des heures et des heures pour attendre la mouche qui vient. Elle piquer, puis prendre son sang, puis la laisser. Cadavre qui dégringole. Alors on dira, tiens, il y avait des moines là. Et tous étaient des chercheurs de la sexualité des araignées. Mais c'est vrai, il reste ce témoignage. Tout le reste a disparu. On ne sait pas qu'à côté, il y avait la somme théologique de Thomas d'Aquin. Non, tout ça a disparu. On ne sait pas pourquoi. Ces livres sont restés, c'est comme ça. Dans l'archéologie. archéologie, on découvre une pièce. Regardez, pour Kouram, toutes les hypothèses. C'est extraordinaire. L'Apocalypse n'est pas un livre historique. Non, non. C'est la vision du ciel sur le temps. Et ça nous est montré tout de suite. Puisque on le voit. Jean aux sept églises qui sont en Asie. À vous, grâce et paix, de la part de celui qui est, de celui qui était, de celui qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin, le fidèle, le premier-né des morts et le chef des rois de la terre. Voyez tout de suite comment on regarde Jésus. On regarde Jésus comme le témoin fidèle. Jésus est témoin fidèle à la croix. Il est le premier des morts à la résurrection. Il est le chef des rois de la terre dans son gouvernement divin. Et c'est tout de suite ce regard-là qui nous est donné à celui qui nous aime et nous a déliés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la domination pour les éternités d'éternité. Voyez comment est regardée l'Église. Premier regard sur l'Église. À celui qui nous aime. Toute la théologie de l'Église est dans ce regard d'amour de Dieu sur nous. Cet amour éternel. À celui qui nous aime. Qui nous a déliés de nos péchés. Qui nous a purifiés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume des prêtres, un royaume de prêtres. L'Église est un royaume de prêtres. Mais comme c'est important de voir ce regard de Dieu sur l'Église. Pour Dieu, nous sommes tous prêtres. Alors, la revendication féministe du sacerdoce, ça pèse avec l'Apocalypse. Elle s'apaise. Tout de suite la grande paix. Ce n'est pas évidemment selon leur revendication, c'est tout à fait différent, on verra. Un royaume de prêtres. Pour son Dieu et son Père. C'est merveilleux de voir que la grâce chrétienne est regardée tout de suite comme une grâce sacerdotale. Et comme une grâce qui fait de nous des citoyens du royaume de Dieu. L'Église est un royaume de prêtres. Gloire et domination pour les éternités d'éternité. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et celui-là qui l'ont transpercé et à son sujet se frapperont leur poitrine. Toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, celui qui était, celui qui vient, le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, le point de départ et le terme. Tout le développement de l'Église est contenu par l'alpha et l'oméga. Parce qu'il est enveloppé de Dieu. Et c'est très beau, et ça a un côté extrêmement solennel et fort. Vous devez rentrer dans cette révélation. Alors, cette révélation va commencer, et c'est important. On ne peut pas le supprimer. C'est la toile de fond. Par une grande vision du ciel. Et vous allez voir, c'est dans l'Apocalypse qu'il y a les plus belles visions du ciel. témoignage de Jésus. Il est là, persécuté, rejeté, et c'est pour ça qu'il est là. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme d'une trompette qui disait: ce que tu regardes, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, et à Smyrne, et à Pergame, et à Thyatire, et à Sardes, et à Philadelphie, et à Laodicée. Jean n'est pas pape. Il est le premier patriarche de l'Asie mineure. Très impressionnant. J'ai voulu. Aussitôt la guerre, j'avais la possibilité d'y aller, j'avais le temps, parce que je devais prêcher à Constantinople pour une petite. Pour des religieuses enseignantes et qui enseignaient à Constantinople. Très vite, ça a été l'Empire ottoman, puis les Turcs. Ils n'ont pas voulu qu'on la reconstruise. Alors ils sont bien obligés de laisser un tout petit peu, mais on ne la reconstruit pas. Dans des ruines. Et il y a le tombeau de Jean. que Saint Jean se retourne pour voir la personne qui lui parle. Et je me retournais pour regarder la voix. Vous ne regardez pas la voix. Ça se regarde pas, ça s'entend. Mais quand la voix est tellement puissante et tellement forte, il y a la présence de quelqu'un. Et c'est cette présence qu'on regarde. Alors ça, c'est très beau. La voix, la puissance de la voix. Et je me retournais pour regarder la voix qui parlait avec moi. Et m'étant retourné, je vis sept lampadaires d'or. Et au milieu des lampadaires, quelqu'un de semblable à un fils d'homme, vêtu d'une robe d'alère, et ceint à hauteur de poitrine d'une ceinture d'or. Vous voyez, au milieu des lampadaires, les sept lampadaires, dit l'Apocalypse, sont les sept églises. Les lampadaires sont les sept églises. Et il y a les anges des églises. Et les sept étoiles sont les anges des sept églises. Il y a donc les églises, les anges des églises, et au milieu Jésus. Comme vision, pour montrer comment les églises sont liées directement aux anges. C'est bien le gouvernement des églises qui se fait par les envoyés de Dieu, les anges. Et Jésus, il est semblable à un fils d'homme vêtu d'une robe d'alère. La robe d'alère, c'est la robe liturgique du prêtre, et ce à hauteur de poitrine d'une ceinture d'or. Sacerdoce royal de Jésus, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Vous voyez le dernier regard de Jean sur Jésus. Quand Jésus était encore sur la terre, à la croix, et après la croix dans la résurrection. Et depuis la résurrection et les apparitions de Jésus après la résurrection, il y a eu ce grand silence où Jean était témoin. Il a été persécuté, rejeté à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Obligé de fuir son église. Obligé de se remettre entièrement entre les mains de la Providence. Et là, Jésus l'attend. Il voit cette vision. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à du bronze qu'on aurait purifié au four. Les pieds, c'est la vie apostolique, comme dit l'Écriture. Il avait dans sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée acérée à double tranchant. C'est sa parole. La parole de Dieu est comme une épée acérée à double tranchant. Et son visage était comme le soleil quand il brille. dans sa puissance. C'est bien Jésus dans sa gloire. Alors, tout est symbolique, parce qu'on ne peut pas exprimer la présence de Jésus glorieux. Ça nous dépasse complètement. Mais c'est beau comme mystère de présence de Jésus. Et c'est le sacerdoce du Christ, le sacerdoce glorieux de Jésus, qui est là, qui nous enveloppe, qui nous prend. Et son visage était comme le soleil quand il brille dans sa puissance. Lorsque je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. L'extase. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier et le vivant. J'ai été mort et voici que je suis vivant pour les éternités d'éternité. J'ai les clés de la mort et de l'Hadès. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va arriver dans la suite. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues sur ma main droite et aux sept lampadaires d'or, le voici. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept lampadaires et cette vision de la présence de Jésus au milieu des sept églises. N'oubliez pas cette parole qu'entend Saul de Tarse dans les Actes des Apôtres. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul de Tarse, partez à Damas. Pour persécuter la jeune église de Dieu. Il y allait comme pharisien, il y allait comme envoyé par son église de Jérusalem pour supprimer l'église naissante. Et Jésus apparaît à Saul de Tarse. Et lui dit, Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu? Persécuter l'Église, c'est persécuter Jésus. Philippe, qui me voit, voit le Père. Et Jésus dit à Saul de Tarse, qui me persécute, qui persécute l'Église, me persécute. Vous voyez, cette médiation étonnante de Jésus. Dans son sacerdoce, il est tout entier tourné vers le Père et attiré par lui. Il est présent dans l'Église. Et par lui, l'Église est reliée à Dieu Père et vit la paternité de Dieu. C'est cela qui est éternel et qui fait nous comprendre la place de Jésus. Voyez donc qu'on ne peut rien comprendre à l'Église si on ne voit pas la présence de Jésus dans l'Église. Et ça, ça nous est donné tout de suite. L'Église est un mystère. Ce qu'on voit à l'extérieur, ce n'est pas un mystère. Ne jugez pas selon les apparences. Il faut toujours bien distinguer ce qu'on voit est quelquefois lamentable mais cache le mystère. Et le mystère, il est dans la lumière directe de Jésus, un avec le Père, s'offrant en victime de propitiation, en victime d'expiation. Toute l'Église. Et l'Église... Jésus présent d'une manière visible à travers ce qu'il a choisi, ce qu'il aime. Il y a là une vision magnifique de l'Église, très simple, liée au sacerdoce du Christ. Ce qui montre bien que la première vision de l'Église est sacerdotale. Une vision sacerdotale de l'Église, dans la lumière de la médiation du Christ, grand prêtre, et dans la lumière de l'Église elle-même, royaume de prêtres. Je crois que c'est la première chose qu'on doit retenir. On verra progressivement. C'est la première vision. Voyez que c'est quand même original. Il y a un lien, c'est pas nouveau, mais c'est explicitement quelque chose de nouveau. Puisque quand dans les Actes des Apôtres, quand est écrit vers l'an 50, donc très rapidement, par Luc, qui écrit son évangile et qui continue d'écrire les Actes des Apôtres, la manière dont Jésus est l'envoyé du Père et la manière dont l'Église est l'envoyé de Jésus. Alors on voit tout de suite que ce premier regard sur l'Église ne peut pas se saisir en dehors du mystère du sacerdoce. C'est Jésus comme grand prêtre. Et c'est Jésus qui va tout de suite nous montrer la correction des églises, des sept. Et cette correction des sept églises est très belle. Parce qu'elle va nous faire comprendre ce qui blesse le cœur du Christ. Et donc c'est toute une révélation du cœur blessé. Par là que nous comprenons. Parce que quelquefois nous croyons blesser le cœur de Christ avec nos petites bêtises. Et les grosses fautes qui blessent le cœur de Jésus, nous ne les regardons pas. Il y a là, au début de l'Apocalypse, une vision étonnante. dessiner comme ça. Alors, il n'y a plus... Il n'y a pas cet affinement du côté de l'esprit saint. On s'accuse de tout ce qui a blessé le cœur de Jésus. Et comme le cœur de Jésus connaît une vulnérabilité infiniment plus grande que nous, nous sommes des êtres grossiers comparativement à la vulnérabilité du cœur de Jésus. Et nous nous laissons prendre. Et nous ne voyons pas. Alors, un excellent examen de conscience, un bon théologien, sait ce que c'est que l'examen de conscience du Nouveau Testament. À l'ange de l'Église qui est à Éphèse, remarquez la correction, ne dit pas l'Église d'Éphèse, mais à l'ange de l'Église qui est à Éphèse, c'est ça qu'il faut dire. C'est l'Église qui est en France, l'Église qui est à Paris, c'est l'Église qui est en Allemagne, c'est l'Église qui est à Bordeaux, c'est l'Église qui est à Lyon. À l'ange de l'Église qui est à Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles. Donc, c'est Jésus entend qu'il est celui qui tient les sept étoiles dans sa droite, celui qui marche au milieu des sept lampadaires. Je vais, je sais tes œuvres et ton labeur et ta conscience et que tu ne peux plus supporter les méchants que tu as mis à l'épreuve. Ceux qui se disent apôtres ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs et que tu as de la constance et que tu as et tout ce que tu as supporté à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé, mais j'ai contre toi que tu t'es relâché de ton premier amour. Ah, voilà, ça c'est l'Église d'Éphèse, la première Église. Elle n'a pas le droit perdre sa ferveur, son premier amour. Et j'ai contre toi que tu t'es relâché de ton premier amour. Rappelle-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viens à toi et je t'ôterai ton lampadaire de sa place. Si tu ne te repens, donc ce ne sera plus la première Église. Mais comme c'est intéressant de voir l'Église de Rome, l'Église d'Éphèse, et toutes les deux sont les premières Églises, mais pas du tout de la même façon. L'Église d'Éphèse est première à cause de son premier amour. Et donc à cause de la ferveur de son premier amour, à cause de la force de son premier amour, c'est ça qui intéresse Jésus. Qu'est-ce qui intéresse Jésus? C'est l'amour qu'on a pour lui. C'est ça qui l'intéresse, plus que tout le reste. S'il y a ce premier amour, il y aura tout le reste. Il y aura les œuvres, il y aura la générosité. Il peut très bien se faire que le premier amour tend à disparaître et que les œuvres demeurent. Alors ça blesse le cœur du Christ. Et j'ai contre toi que tu t'es relâché de ton premier amour. Rappelle-toi donc d'où tu es tombé, et repens-toi, et pratique tes premières œuvres, sinon je viens à toi, et j'ôterai ton lampadaire de sa place. Tu as pour moi de haïr les œuvres des Nicolaïtes. sont ceux qui font des concessions à l'ordre de la doctrine, qui, pour plaire aux autres, n'affirment plus la force de la doctrine, ils composent, ils s'adaptent doctrinalement. On voit très bien ça. Et l'église d'Éphèse, qui a perdu son premier amour, n'a pas perdu sa soif de vérité. C'est très très beau ça. Ça prouve que la soif de vérité permet de retrouver le premier amour. Et s'il n'y a plus cette soif de vérité, on perd le premier amour et on ne peut plus le retrouver. C'est cette soif de vérité qui permet de retrouver ce premier amour. Qui a des oreilles, entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est très étonnant. La récompense de l'église Éphèse, c'est de donner à manger du fruit de l'arbre de vie. Dieu donne à l'église d'Éphèse, c'est de pouvoir manger du fruit de l'arbre de vie. Au vainqueur, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le premier paradis, il n'est plus que le paradis de Dieu. Vous n'allez pas retrouver sur la terre un paradis. Personne d'entre nous. Notre paradis, c'est notre amour pour Jésus. Et cet amour pour Jésus, s'il demeure un amour fervent, la ferveur. Vous savez comment Thomas d'Aquin définit la ferveur ? Il ne faut jamais l'oublier. On voit Thomas d'Aquin en face d'une marmite pleine d'eau qui est sur le feu. Une marmite pleine de lait qui est sur le feu. Et quand le lait se met à bouillir, il soulève le couvercle tellement c'est fort. Et il se répand sur tout. Et sur le lait, il n'y a plus rien dans la casserole et tout est parti. C'est ça la ferveur. La ferveur, c'est ce dépassement à l'égard du couvercle. Et le couvercle, c'est notre chère prudence. N'allons pas trop vite, ne nous essoufflons pas. Tu as travaillé assez aujourd'hui, repose-toi. On n'aime pas trop, parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Ne donne pas tout et des réserves. Tous les jours. Parce que instinctivement, de l'amour, c'est l'amour. C'est-à-dire que l'amour est sans mesure. L'amour a par lui-même et en lui-même sa propre mesure. C'est pour ça que on ne peut corriger un amour sensible, passionné, que par un amour plus fort, plus spirituel, qui va plus loin. Parce que l'amour n'a pas d'autre mesure que l'amour. Retenez ça, c'est très beau ça. Saint Bernard et saint Thomas l'ont repris. Parce que c'est propre à l'amour ça. Vous ne pouvez pas dire ça pour autre chose que l'amour. Pas dire que la mesure de la connaissance est la connaissance. Non, c'est la réalité existante que je connais. Tandis que l'amour n'a pas d'autre mesure que l'amour. Parce que ce n'est pas celui que j'aime en tant qu'il existe qui est la mesure de mon amour. Non, je vais vers lui et je veux l'entourer. C'est sûr, l'ami est bien mesure de mon amour que j'ai pour lui. Mais l'amour que j'ai pour mon ami dépasse mon ami, puisque je l'aime comme ce qui me dépasse complètement. Il faut souvent, vous voyez, revenir dans la correction qu'on peut faire de soi-même. Cette première correction. Si vous êtes loyal, vous êtes bien obligé de reconnaître que c'est plutôt rare qu'en face de Jésus, on regarde si on vit de cette ferveur de l'amour, de cette première ferveur de l'amour. Il ne s'agit pas d'une ferveur sensible. Celle-là a peut-être existé au moment de notre conversion. Cette ferveur sensible. On se sent aimé et aimant. C'est beau. C'est très agréable. Mais c'est très dangereux de rester à ça. Parce que dès qu'il n'y a plus d'expérience, de conscience sensible dans l'ordre de l'amour, on arrête. On dit Dieu ne m'aime plus. Parce que je ne sens plus rien. Comprenons que c'est une volonté d'aimer la ferveur. Et c'est cette volonté d'aimer au-delà de tout. Pour répondre à l'appel du Christ. Et pour aller le plus loin possible dans cet amour. Et c'est cet amour-là qui doit continuellement aller toujours plus loin. Tandis que si vous répondez à l'amour seulement quand vous le ressentez en vous, le jour où vous ne le ressentez plus, vous arrêtez votre amour. Vous vous repliez sur vous-même. Et en vous repliant sur vous-même,